présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. L'émotion et le silence aujourd'hui lors du procès des attentats de janvier 2015. La cour d'assises spéciale a visionné les images de l'attaque de Charlie Hebdo le 7 janvier où l'on voit les 10 victimes du journal littéralement exécutées par les frères Kouachi. Nous écouterons dans un instant l'avocate du fils de Bernard Maris, maître Cathy Richard. Qui sont les anti-masques en France? La Fondation Jean Jaurès publie une étude sur cette galaxie qui refuse le port du masque obligatoire contre la Covid-19. Ce sont souvent des gens diplômés de droite qui disent défendre la liberté individuelle. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, envoie une circulaire aux procureurs pour mieux protéger les élus victimes de violences. Le texte prévoit une réponse pénale systématique et rapide. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement promet d'être intraitable sur le sujet. À l'étranger, la répression s'accentue en Biélorussie. L'une des principales opposantes, Maria Kolesnikova, a été arrêtée par des inconnus ce matin à Minsk. À Berlin, l'opposant russe Alexei Navalny va mieux. Il est sorti du coma aujourd'hui, annonce l'hôpital de la Charité. L'Allemagne envisage de sanctionner la Russie qui refuse d'enquêter sur l'empoisonnement de Navalny. Enfin, ce nouveau bras de fer autour du Brexit. Le Premier ministre britannique Boris Johnson se dit prêt à renoncer à un accord de libre-échange avec l'Union européenne. La cour d'assises spéciale de Paris a visionné aujourd'hui les images de l'attaque de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, des images terrifiantes qui montrent comment, en l'espace de 2 minutes, les frères Kouachi ont littéralement exécuté leur cible. 10 personnes tomberont sous les balles djihadistes dans les locaux du journal. Les parties civiles ont revécu la scène aujourd'hui via l'écran de la salle d'audience avec les explications cliniques de l'ancien patron de la section antiterroriste de la brigade criminelle, Christian Do. Alors, fallait-il diffuser ces images souvent insoutenables? Oui, répond maître Cathy Richard. Elle défend le fils de Bernard Maris.
J'ai l'habitude des photos de scènes de crime, j'ai l'habitude des photos d'autopsie. Là, on a vu un carnage, on a vu des photos de guerre. C'était néanmoins un moment utile et important, parce que ça permet de prendre la mesure de ce qu'a été cet acte. Le visionnage a permis de prendre la mesure de leur détermination. En 1 minute 45, on est face à un moment d'une barbarie inouïe, intense, sans la moindre hésitation. Certains ont été assassinés alors qu'ils étaient face contre terre, d'une balle dans la tête. On sait aussi que ce ne sont pas des rafales qui ont été tirées, mais chacun a été assassiné avec minutie, j'allais dire. Et c'est parfaitement insoutenable. On parle de terrorisme, mais là, on voit. La justice doit passer impérativement pour restituer la dimension humaine, justement, la dimension culturelle, la dimension d'idée de ces hommes qui, et ces hommes et ces femmes qui étaient, eux, des résistants à l'obscurantisme.
Maître Cathy Richard, l'une des avocates des parties civiles au procès des attentats de janvier 2015, elle répondait à Florence Turme. Qui sont les anti-masques en France? Ces gens qui refusent de porter le masque pour contenir la pandémie au nom de la liberté individuelle. La Fondation Jean Jaurès publie aujourd'hui une première étude sur cette nébuleuse. Si en Allemagne, les anti-masques parviennent à mobiliser des dizaines de milliers de personnes dans la rue, en France, le mouvement est balbutiant. La Fondation Jean Jaurès a enquêté auprès des groupes Facebook hostiles au port du masque obligatoire. Au total, 1 millier de personnes ont été interrogées pour tenter de cerner le profil de ces anti-masques. Anti-masques, les précisions d'Aurélie Kiffer.
Avant tout, ils sont anti-système. Pour 82% des anti-masques, c'est le peuple qui devrait prendre les décisions politiques les plus importantes. Ils rejettent les institutions politiques et médiatiques et adhèrent au libertarisme rejetant les contraintes émanant de l'État. Un État qu'ils soupçonnent de vouloir les tromper et les asservir. Pour 90% d'entre eux, ministère de la Santé et laboratoires font tout pour cacher la nocivité des vaccins. Plus de la moitié des personnes interrogées croient aux Illuminati, 56% en la théorie du grand remplacement, 57% sont convaincus d'un complot sioniste à l'échelle mondiale. Mais s'ils sont adeptes des théories du complot, ils n'ont pas le profil habituel des complotistes. Antoine Bristiel, auteur de l'étude, est professeur de sciences sociales et chercheur à Sciences Po Grenoble.
ce sont plutôt des personnes éduquées, avec en moyenne un bac plus 2, des personnes relativement âgées, avec en moyenne une cinquantaine d'années, et qui appartiennent aux catégories sociales supérieures, puisqu'il y a 36% de cadres dans notre échantillon, soit le double de ce que l'on a dans la population française. Donc public assez atypique, qu'on ne retrouve habituellement pas dans ces sphères de défiance.
Le mouvement des anti-masques rappelle celui des gilets jaunes, mais là encore, le profil ne colle pas tout à fait. Antoine Bristiel.
Par exemple, chez ces anti-masques, il y en a seulement 20% qui ont participé directement au mouvement des gilets jaunes, alors qu'il y en a 60% qui disent avoir soutenu le mouvement des gilets jaunes, mais sans y avoir participé directement. Donc ils se retrouvent dans cette défiance envers les institutions, mais ils ne s'expriment pas de la même manière parce qu'ils ne proviennent pas non plus des mêmes catégories sociales.
Situé plus à droite sur l'échiquier politique, les anti-masques se rapprocheraient plutôt des soutiens du professeur Didier Raoult. 87% ont d'ailleurs une bonne opinion de l'infectiologue. Et quand on les interroge sur l'hydroxychloroquine, ils disent à 98% que l'on doit être libre de prendre ce traitement controversé, même si certains ne croient pas à la réalité de l'épidémie de Covid-19.
Aurélie Kiefer, Santé publique France a recensé en 3 jours 25 000 nouveaux cas de Covid-19, un chiffre record, mais que l'on ne peut pas comparer avec la première vague du virus au printemps lorsque les tests étaient rares. Il y a aujourd'hui 4 700 patients hospitalisés pour le nouveau coronavirus, dont un peu moins de 500 en réanimation. Début avril, on a compté jusqu'à 7 000 malades en réanimation. Le gouvernement veut prélever 1 milliard d'euros dans les caisses d'Action Logement, information révélée par le journal Les Échos, confirmée à l'AFP par une source gouvernementale. Action Logement, c'est l'ancien 1% logement, financé par une taxe versée par les entreprises, et c'est l'un des principaux acteurs du logement social en France. Anne-Laure Chouin, bonsoir.
Bonsoir.
Le gouvernement va mettre à contribution cet organisme paritaire pour boucler son plan de relance de 100 milliards d'euros.
Oui, une contribution qui deviendrait presque une habitude à croire les partenaires sociaux en charge de la gouvernance d'Action Logement. L'année dernière, 500 millions d'euros avaient déjà été prélevés dans les caisses de l'acteur principal du logement social en France, vous l'avez dit, qui ne conteste pas, cet acteur, la nécessité de contribuer au plan de relance en finançant, par exemple, des politiques publiques du logement. Mais qui garantit que le milliard d'euros qui risque d'être prélevé cette année ira bien au logement? C'est là que le bât blesse. On rappelle qu'Action Logement est notamment en charge de collecter la PEEC, la participation des employeurs à l'effort de construction, le fameux 1% logement qui aujourd'hui ne représente plus que 0,45% de la masse salariale. Grâce à cette collecte, l'organisme disposait en 2018 d'une trésorerie de près de 8 milliards d'euros. Preuve, selon Bercy, d'une mauvaise gestion. Tant d'argent en réserve, c'est autant de projets de construction non sortis de terre, estime l'État. Mais selon Thierry Cadard, en charge du suivi d'Action Logement à la CFDT, cette offensive de Bercy, qui demande par ailleurs une nouvelle réforme structurelle cette fois d'Action Logement, cette nouvelle offensive donc cache la volonté de moins en moins cachée de rattacher l'argent du logement social au budget de l'État.
Il y a l'idée que peut-être une partie du financement d'Action Logement pourrait être fiscalisée, comme on dit, c'est-à-dire ne plus relever de cotisations sociales, mais relever d'une façon ou d'une autre de l'impôt. Il ne faut pas baisser le financement du logement. Ce serait une grave erreur aujourd'hui, compte tenu des besoins des salariés, compte tenu des attentes en termes de mobilité. On peut discuter de tout, mais préservons les moyens d'action du logement. C'est vraiment un sujet qui mérite qu'on ne traite pas par-dessus la jambe.
Et faire revenir dans le giron de l'État des ressources collectées et gérées par les partenaires sociaux. Le débat existe depuis plusieurs années. Emmanuel Macron, candidat, l'avait notamment proposé pour l'assurance chômage.
Anne-Laure Chouin, merci. À noter que la direction d'Action Logement ne fait pour l'instant aucun commentaire sur ce prélèvement d'un milliard d'euros imposé par le gouvernement. C'est un autre chantier important du gouvernement, mieux protéger les élus victimes d'insultes et de violences. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, vient d'envoyer une circulaire au procureur, un texte qui prévoit, je cite, « une réponse pénale systématique et rapide ». Depuis le 1er janvier 2019, il y a eu 255 affaires d'atteinte aux élus, selon les chiffres de la chancellerie. Les maires sont en première ligne face à cette violence verbale et parfois même physique. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir.
Ce n'est pas la première fois que le gouvernement promet d'agir contre ces violences et ce n'est pas sa première circulaire sur le sujet.
Incivilité, insultes, menaces, parfois coups et blessures, les élus sont de plus en plus souvent la cible d'actes délictueux et se plaignent régulièrement de la lenteur de la justice et surtout de la réponse pénale. À l'automne 2019, Nicole Belloubet, alors garde des Sceaux, écrivait au parquet pour leur demander qu'une réponse pénale soit systématiquement apportée à l'encontre des auteurs de faits de violence contre les élus. On était alors quelques semaines après l'agression du maire de Signes, Jean-Mathieu Michel, mortellement fauché par une camionnette, alors qu'il voulait verbaliser les occupants qui venaient de déverser des gravats sur le bord de la route. Un an plus tard, rien n'a changé. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, demande lui aussi au parquet de faire preuve d'une plus grande fermeté en demandant aux juges de sanctionner les insultes comme des outrages et non plus comme un simple rappel à la loi. Cet été, les agressions contre les maires se sont multipliées à Port-Bail, dans la Manche, comme à Saint-Philippe-d'Aiguille, en Gironde, et à Chailly-Fère, en Seine-et-Marne. Il faut une réponse pénale adaptée, proportionnée et surtout immédiate, rappelle Agnès Lebrun, porte-parole de l'Association des maires de France. Des élus de terrain qui sont devenus la préoccupation de l'exécutif, pour ne pas dire un enjeu politique. « J'ai besoin de vous, rien ne se fera sans vous », disait l'an dernier Emmanuel Macron devant l'Assemblée des maires de France. Message appuyé par la nomination d'un Premier ministre défenseur des territoires, Jean Castex.
Pierre Neveu, merci. Quels sont les freins à l'indépendance de la justice? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat, juste après ce journal. Une commission d'enquête parlementaire vient de faire une quarantaine de propositions pour garantir cette indépendance de la justice. La répression s'intensifie en Biélorussie. La police du président autocrate Loukachenko a arrêté hier plusieurs dizaines de manifestants lors d'une nouvelle mobilisation massive de l'opposition. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Minsk pour dénoncer la réélection de Loukachenko. Le régime semble avoir franchi une nouvelle étape ce matin dans sa réponse brutale. Maria Kolesnikova, l'une des principales figures de l'opposition, a été arrêtée par des inconnus à Minsk. On retrouve notre correspondant à Moscou, Claude Bruyot. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Claude, que sait-on précisément de ce qui ressemble furieusement à un enlèvement ?
Écoutez, on a très peu de détails sur les circonstances. Un témoin cité par des médias indépendants indique avoir vu ce matin Maria Kolesnikova emmenée de force dans un minibus par des hommes en civil. Cette personne précise que durant ce qui ressemble fort donc à une arrestation, Maria Kolesnikova a laissé tomber son téléphone portable et que l'objet a été immédiatement ramassé par l'un des hommes en question. Depuis, eh bien, aucune nouvelle de la dernière leader de l'opposition biélorusse encore sur place. Son chargé de communication laissait entendre tout à l'heure qu'une perquisition aurait été menée au domicile d'Ivan Kravtsov, également membre du comité de coordination, et arrêté lui aussi ce matin avec un autre représentant de l'opposition biélorusse, Anton Rodnenkov. Une perquisition apparemment diligentée par le département national des finances. On sait que le pouvoir biélorusse et Alexandre Loukachenko en tête accusent les leaders de l'opposition d'être soutenus par des puissances étrangères, notamment financièrement. Ce qui est certain, c'est qu'après la reprise d'arrestations par centaines hier à l'issue de la manifestation de Minsk, avec l'interpellation de Maria Kolesnikova aujourd'hui, le pouvoir biélorusse reste sur son objectif prioritaire, à savoir réduire au silence ses opposants. Pour mémoire, Maria Kolesnikova, qui était la directrice de campagne de Viktor Babareka, emprisonnée depuis 4 mois, considérée comme un candidat pro-russe à la présidentielle, Maria Kolesnikova avait annoncé, Stanislas, la semaine dernière, la création d'un parti d'opposition baptisé Ensemble.
Merci Claude Bruyot en direct de Moscou. La Russie qui continue à nier toute responsabilité dans l'empoisonnement d'Alexei Navalny. Bonne nouvelle ce soir, l'état de santé de l'opposant russe s'améliore. Il est sorti du coma, annonce l'hôpital de la Charité à Berlin où Navalny a été admis le 22 août dernier. L'Allemagne affirme avoir la preuve que le principal opposant à Vladimir Poutine a été empoisonné. Et la chancelière Angela Merkel exige du Kremlin l'ouverture d'une enquête. Ludovic Piétenu nous appelle de Berlin.
Les médecins de l'hôpital de la Charité à Berlin ont donc progressivement diminué les sédatifs qui maintenaient Alexei Navalny dans un état de coma artificiel. Et cette longue phase de réveil est désormais terminée puisqu'il réagit à la réponse, explique le communiqué des médecins qui ont aussi mis de côté la ventilation artificielle. Navalny reprend une respiration autonome. Son état s'améliore donc, mais il est encore trop tôt pour connaître les effets à long terme de cet empoisonnement sur sa santé. Du côté diplomatique, l'Allemagne a fixé hier un ultimatum ultimatum à Moscou, seulement quelques jours pour clarifier ce qui s'est passé. Mais le Kremlin a déjà fait savoir un peu plus tôt aujourd'hui qu'il considérait inacceptable d'être associé de quelque manière que ce soit à ce qui s'est passé. Les mots sont choisis, il n'est même pas question d'empoisonnement. Les Européens et l'Allemagne en tête menacent de retirer leur soutien à la construction quasi achevée du gazoduc Nord Stream 2 qui doit acheminer du gaz russe via la mer Baltique directement en Allemagne, une option que n'exclut pas la chancelière Angela Merkel, a fait savoir aujourd'hui son porte-parole.
Ludovic Piétenu, correspondant en Allemagne. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, mais le Brexit continue à empoisonner les relations entre les deux parties. Au cœur des tensions, l'accord de libre-échange qui doit servir de nouveau cadre économique à ces relations. À Londres, le Premier ministre Boris Johnson est prêt à claquer la porte des négociations, faute de compromis. À Bruxelles, les Européens appellent les Britanniques à respecter leurs engagements. Le décryptage de Marie-Pierre Véraud.
Fidèle à la méthode qui lui a assuré le succès sur la scène nationale et la conduite à Downing Street, Boris Johnson fait en effet le fier. Bruxelles souhaite un accord avant fin octobre. Qu'à cela ne tienne, le Premier ministre britannique raccourcit les délais. Si aucun terrain d'entente ne se profile, dit-il, ce ne sera plus la peine de se parler au-delà du 15 octobre. Et son pays sera prêt. Quoi qu'il arrive, Boris Johnson se délecte même de retrouver une indépendance totale de commerce qui fera, ajoute-t-il, la prospérité de son pays. Nulle mention des contrôles et taxes qui se multiplieraient entre le Royaume-Uni et le continent si aucun accord de libre-échange n'était trouvé. Alors, s'agit-il d'un nouveau chantage ou d'une absence de stratégie de négociation ? La question reste posée aux Européens comme aux milieux économiques britanniques, toujours dans le flou. Et ce n'est pas tout. Londres pourrait remettre en cause certaines dispositions de l'accord de retrait, pourtant signé en janvier, et qui préserve notamment la paix en Irlande, en évitant le retour d'une frontière physique entre le nord et le sud de l'île. Les Européens sont vent debout. Il est question de la confiance dans la parole donnée et les traités signés. Devant le tollé, Londres assure qu'il ne s'agira que d'ajustements techniques que doit préciser une loi. Mais le doute s'insinue. Il faudra attendre mercredi et la publication de cette loi pour s'en assurer, alors que les négociations reprennent demain et s'annoncent donc plus épineuses que jamais.
Marie-Pierre Véraud, merci. À noter que Boris Johnson a eu aujourd'hui un échange téléphonique avec Emmanuel Macron. Les deux hommes sont tombés d'accord sur la nécessité d'enregistrer des progrès dans les discussions au cours du mois de septembre. L'objectif étant de trouver une conclusion rapide. C'est ce qu'indiquent ce soir les services du Premier ministre britannique. Polémique au Sénégal après les inondations qui ont dévasté une partie du pays ces derniers jours. Il y a au moins 4 morts selon un bilan provisoire. À Dakar et dans plusieurs régions sénégalaises, les pluies ont atteint une intensité inhabituelle et le gouvernement du président Macky Sall est mis en cause pour sa gestion de la crise. C'est une correspondance de Théa Olivier.
Chaussures en plastique aux pieds, Daouda Silla marche dans les rues de son quartier avec de l'eau à mi-mollet. Il a dû fuir sa maison devenue inhabitable.
On a été obligé de déguerpir parce que la maison est envahie par les eaux. Le niveau d'eau avait atteint à peu près 50 cm. Chaque année, il y a des inondations, mais cette année, c'est vraiment une catastrophe. Il n'y a aucune infrastructure. Or, nous, quand nous achetions nos parcelles, on nous avait dit qu'il y avait l'assainissement, canalisation et tout. Bon, nous avons cru, on a acheté, nous avons investi. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là.
Habitant du même quartier, Malixi a aussi quitté sa maison et envoyé sa femme et ses enfants au village. Toutes les pièces sont inondées, les fauteuils, matelas et frigos détrempés.
L'année dernière, l'eau avait remonté jusqu'au niveau des plinthes, mais cette fois-ci, ça a débordé. L'eau a beaucoup rentré, il a dépassé les prises. Depuis mercredi, j'ai coupé le courant, quoi, parce que l'eau est courante, c'est pas sûr.
Face à ce problème récurrent, Mamadou Sall, délégué de quartier, se félicite de la mobilisation des populations pour évacuer l'eau, mais il demande un soutien étatique.
D'abord, il doit y avoir un effort venant de nous, une participation sociale et responsable. On avait acheté des camions de sable, de gravats et tout, pour créer des chemins où passent les véhicules ou les enfants. On sait que les autorités locales, ils n'ont pas les moyens de restructurer la cité-là. Ça, c'est l'État seul qui doit prendre ses responsabilités, nous créer une canalisation pour évacuer les eaux.
Le président Macky Sall a demandé le déclenchement du plan d'urgence ORSEC d'organisation des secours.
Le reportage de Théa Olivier, notre correspondante au Sénégal. La disparition d'une grande voix française de l'opéra, la soprano martiniquaise Christiane Hédapierre, est morte hier dans sa maison des Deux-Sèvres. Elle avait 88 ans. Christiane Hédapierre fut la première cantatrice noire française à connaître une carrière internationale. Elle a chanté dans les plus grands opéras du monde, de Paris à New York en passant par Londres et Vienne. Elle avait notamment triomphé en 1977 dans les contes d'Hoffmann, d'Offenbach, sur une mise en scène de Patrice Chéreau. Le temps demain sera nuageux de la Bretagne au nord de la Seine, sans véritable pluie. Ailleurs, quelques ondées seront possibles autour du golfe du Lion. Sur les autres régions, le soleil et la sécheresse continueront à s'imposer. Les températures minimales seront très contrastées, du nord à la Méditerranée, de 5 à 19 degrés. Les maximales seront comprises entre 20 et 31 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.